Dans Matthieu 12, on va lire les versets 38 à 50. Juste parce que notre texte, on va se concentrer plus. On va dire, je l'ai mal noté, 38 à 45, puis notre conclusion, ça va être 46 à 50. On va garder ça pour le dessert. Parce que vraiment, notre section, on se concentre plus sur 38 à 45. Donc, Matthieu 12, 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Il en sera de même pour cette génération méchante. On considère ce soir la réponse de Jésus à une génération méchante et adultère. Vous savez, on est à la fin du chapitre 12. Je vous rappelle que dans le chapitre 12, on a vu comment le conflit s'intensifie. Au tout début, ça commence avec le conflit sur le sabbat. Jésus qui fait des choses que le leadership d'Israël trouvait illégal, illégitime de faire le jour du sabbat. Ça l'amène à un conflit. Ensuite, le conflit continue avec « Par quelle autorité que tu fais ces choses? » Eux disaient « Belzébul ». Bon, Jésus leur répond là-dessus. Et ensuite, les choses continuent. Où est-ce que Jésus continue à, bon, une fois qu'il leur a parlé d'autorité, il confirme leur rejet parce qu'il dit comment ils parlent de l'abondance de leur cœur et tout ça. Et là, maintenant, il leur met en évidence qu'ils le rejettent, qu'ils rejettent Dieu, qu'ils rejettent le témoignage qu'il leur est donné. Et là, dans le texte qu'on a ce soir, il répond à leur demande d'avoir un signe. Un signe. Et ça démontre leur grande et tenace incrédulité. Mes amis, c'était des durs à cuire. Ils étaient vraiment dans de beaux draps, dans un bourbier spirituel. Et Jésus leur avait déjà donné beaucoup de matière à croire. Okay? Jésus avait fait déjà des miracles devant eux pour montrer qui il est, en faisant des choses qui confirmaient qu'il était ça le but des miracles. Les miracles, c'était pour confirmer qu'il était bien le Messie. C'était pas pour faire un spectacle, c'était pour confirmer qu'il était bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Et donc, ce que Jésus fait dans ce qu'on vient de lire ce soir, c'est comme s'il se campe dans le moment présent, là, puis là, il les regarde droit dans les yeux, puis là, il leur parle de où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Il les avertit par rapport à l'avenir. Jésus devient pas mal solennel, puis là, il leur parle à 4 reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il utilise l'expression « cette génération ». Versets 39, 41, 42 et 45. Il leur parle, il s'adresse à eux, parce qu'ici c'est les scribes et les pharisiens, et il s'adresse à eux comme représentants de leur génération. Et comment il les qualifie? Comme une génération, verset 39, une génération méchante et adultère. Et ici, les mots sont importants. Une génération méchante, ça parle du caractère hostile qu'il avait envers Dieu. Au fait qu'il était devant Dieu qui se révélait à eux, dans sa bonté, Puis non seulement il se révélait lui à eux, mais il leur révélait à eux leur état spirituel, la dureté de leur cœur et leur aveuglement. Puis il persistait. Il était dans une méchanceté persistante. Puis lorsque Jésus emploie un autre qualificatif pour cette génération, il les appelle adultères, ben, eux qui connaissaient les Écritures, hein, savaient que ça parle l'adultère spirituel, l'infidélité spirituelle. Ils connaissaient le livre d'Osée, et dans Osée, c'est ça la grande leçon du livre. Et là, à l'époque de Jésus, ils étaient rendus comme ça, infidèles spirituellement à l'éternel Dieu. Alors Dieu, il était rendu adultère avec l'idolâtrie de la religion externaliste. La religion vide, vaine, complètement dépourvue de toute vie de Dieu. Je veux dire, il n'y avait plus de vie dans leur affaire, c'était mort. OK? Et c'était leur idole, parce qu'eux autres, pour eux autres, c'était ça, puis ils plaisent à Dieu, puis bon. OK? Et donc, si à l'époque de Jésus, l'heure était grave, parce que c'est pas mal ce que Jésus veut leur dire, l'heure est grave, vous êtes une génération méchante et adultère, puis là, il va les comparer à d'autres, on va voir, on l'a lu, mais on va le considérer ensemble. Si à cette époque-là, l'heure était grave, au point que Jésus leur donne ici, on va le voir, des ultimatums. Il les met face à ce qui les attend. Si vous restez comme ça, voici ce qui vous attend. Pour nous, à combien plus forte raison, l'heure est grave. Nous qui sommes rendus à la fin des temps, l'Église de Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Je crois qu'on est en train de vivre ce que Pierre a prophétisé dans 1 Pierre 4:17, que le jugement commence par la maison de Dieu. Je le crois. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la maison de Dieu est exposée. La maison de Dieu est montrée pour l'hommerie qu'elle a, la crainte qu'elle a de l'homme plus que... C'est un jugement de Dieu qui nous expose tel qu'on est. OK? Et donc, je pense que les ultimatums qu'on va considérer ce soir sont bons pour nous aussi. Trois ultimatums que Jésus donne en réponse à une génération méchante et adultère. Le premier ultimatum, c'est le dernier signe. Et on a vu ça dans les versets 38 à 39, lorsqu'il lui demande de faire un miracle. Jésus dit au verset 39, une génération méchante et adultère demande un miracle, lui sera donné, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça dit miracle, il y a différents mots pour miracle dans la Bible. Ici, l'idée, moi j'ai mis comme mon point un signe, puis je vais expliquer pourquoi je prends ce mot-là. Jésus ici refuse de leur donner ce qu'ils demandent, c'est-à-dire le mot ici pour miracle, on pourrait dire signe, on dirait signs and wonders, là, c'est l'idée, c'est du spectaculaire, du tape à l'œil. En fait, on apprend dans le passage parallèle dans Luc 11, il dit un signe venant du ciel. Autrement dit, fais comme à l'époque avec Élie, là, fais tomber le feu du ciel. Tu sais, pour qu'on croie en toi, fais quelque chose, là, bang, qui va nous montrer vraiment que t'es le fils. Puis comme si c'était pas assez ce qu'il avait fait, là. Ils ont été témoins de beaucoup de choses que Jésus a faites. Il a guéri des malades, il y a des muets qui sont mis à parler, puis, OK, il y avait plein de choses. Mais comme eux autres, si c'était pas assez, donne-nous un signe, quelque chose de tape à l'œil. On veut voir le Messie spectacle à l'œuvre. N'est-ce pas la nature humaine de vouloir des spectacles, comme les églises de nos jours, des églises modernes? Bon, peut-être un peu moins en ce moment. Mais hein, la chrétienté spectacle, c'est pas de nouveau. Déjà à l'époque de Jésus, c'est ce qu'il demandait. Et il ne voulait pas d'un Messie humble, compatissant et restaurateur comme Jésus est venu. Jésus venait pour restaurer ce qui était brisé. Il n'éteignait pas le lumignon qui fume. Mais ça, ça ne flash pas bien, bien. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Mais écoutez bien, Jésus ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Il leur donne, comme d'habitude, ce dont ils ont besoin. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il les ramène aux Écritures. Il ne va pas vous donner un signe, bing, bang, venant du ciel. Il va vous donner celui que vous avez devant les yeux, dans les Écritures, le signe du prophète Jonas. Pourquoi? Parce que les Écritures, c'est elles qui rendent témoin de Jésus. D'ailleurs, on a l'exemple. C'est comme Jonas a été 3 jours, ben c'est ça, Jésus aussi. Hein? Jonas rend témoignage de Jésus. Puis c'est ça votre signe. Et c'est beaucoup, c'est permanent. Les Écritures ne changent pas, sont le témoin inchangeable de Dieu. Les miracles que Jésus a fait étaient brefs, passagers, puis c'était donné que tu n'étais pas là quand il l'avait fait, tu l'avais manqué. Mais les Écritures, on peut toujours y retourner, sont toujours là. Donc Jésus les ramène à ce qui est permanent, à ce qui est durable, pour les sortir de leur incrédulité. Il leur donne ce dont ils avaient besoin. Juste quelque chose là-dessus qui est important pour nous de comprendre. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage des fois avec des choses qu'il peut faire de façon naturelle, hein, des vies transformées, des fois il peut faire des guérisons, des fois il peut faire des réponses aux prières incroyables et tout ça. Dieu est capable de faire ça. L'histoire nous en témoigne, les Écritures nous en témoignent. Mais savez-vous que ce n'est pas sa méthode privilégiée pour amener les gens au salut, pour amener les gens à être convaincus de la vérité? Non, sa méthode privilégiée, c'est les Écritures. C'est ce que le Saint-Esprit utilise comme façon numéro un, comme façon première, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Ah, c'est peut-être pas aussi spectaculaire. Hey, mais n'est-ce pas ce dont on se réjouit quand on voit que la personne est régénérée, née de nouveau? Pensez que ça soit spectaculaire de la façon... Un matin, qu'est-ce qui a fait de notre joie quand je vous ai raconté le témoignage de ce détenu? C'est voir qu'il a été sauvé, juste avec une Bible. C'est pas « Oh, wow! » Puis il a pas vu une grande vision, il a pas... Mais il a été sauvé. C'est ça qui fait notre joie. Okay? Donc, c'est le résultat qui est important, qu'il soit réel et authentique. D'ailleurs, si on regarde ici, si on faisait le tour de la salle, comment on était converti, c'est pas nécessairement la grosse affaire des actions d'éclat. Puis, ah, il y en a que vous écouterez le témoignage de pasteur Dave Webster. Ça, c'est du tape à l'œil. Je veux dire, il a fait un crash d'avion. Puis l'avion était en feu, puis il pensait qu'il était en enfer quand il s'est réveillé. Le fait qu'il soit pas mort, c'est un miracle. Puis quand il s'est réveillé, là, il était pris dans... Parce que, tu sais, on appelle pas ça une ceinture... Ben, en tout cas, une ceinture de sécurité d'avion, c'est pas mal plus solide qu'un harnais, je sais pas comment on appelle ça. Là, il était comme pogné dans son siège, fait qu'il y a quelqu'un qui est venu pour le sortir. Il pensait qu'il était en enfer, puis que c'était comme un dieu ou un ange qui venait le... Tu sais, il pensait que c'était fini pour lui, là. Quand on dit que Dieu veut notre attention et qu'il peut prendre les moyens, tu sais. Mais bon, lui, c'est plus une exception. Dieu est capable, c'est ça que je dis, Dieu est capable de faire ça. Mais en général, c'est pas comme ça. Il choisit le simple moyen des Écritures. Ceci dit, si quelqu'un nous demande comme ça un signe, du tape à l'œil, montre-moi quelque chose, mais qui n'est pas intéressé dans les Écritures, il est en train de vous démontrer son incrédulité. Qu'il n'y a pas de vraiment... Tu sais, il veut un film de super-héros, mais il ne veut pas entendre parler de Dieu. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à chercher Dieu. OK? Soyez patient, usez de grâce envers cette personne, mais comme Jésus-Christ ici le démontre, cette personne-là n'est pas prête à recevoir beaucoup d'investissements spirituels de notre part, d'enseignements spirituels, mais on peut lui donner des avertissements. C'est ce que Jésus fait ici. Donc, c'est une bonne première leçon pour nous ici. Ça pourrait être une façon de comprendre de ne pas jeter nos perles au pourceau, dans le sens de ceux qui méprisent les vérités de la parole, ben, sont pas prêts à les recevoir. On peut s'investir ailleurs. On peut avertir ces gens-là, comme Dieu avertit toujours. Donc, c'est une première leçon. Et ça nous rappelle aussi la suffisance d'Écriture pour le salut de quelqu'un. Mais aussi, savez-vous, pour notre sanctification, ou dans des temps comme nous sommes, savez-vous, c'est important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Savez-vous ce qui se passe en ce moment? Puis là, je ne parle pas nécessairement de tout comprendre en long et en large, mais quand on regarde à la lumière des Écritures les événements de l'actualité, je l'ai déjà dit puis je le répète, je ne pense pas que la fin arrive. Je pense que ça, c'est la fin. On est, je veux dire, un étudiant même assez... beginner, là, débutant des Écritures, comprend, t'as peur, il y a tellement d'affaires, tout arrive ensemble, le Moyen-Orient, un grand gouvernement mondial qui veut tout contrôler, puis tout ça, tu sais, c'est comme... Et ça, c'est les Écritures qui nous le confirment. Donc, ça amène la suffisance, l'importance des Écritures pour le salut et la sanctification. L'apologétique, c'est bien la défense de la foi, mais toujours... C'est inférieur aux Écritures elles-mêmes. Toujours, les Écritures sont la parole, l'épée à deux tranchants. OK? Ça nous amène à le deuxième ultimatum. Non seulement ils ont été mis face à un dernier signe, mais aussi le dernier jugement, versets 41 et 42. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Puis en passant à Jonas, c'était pas un gros sermon. Puis en fait, c'était même pas un prédicateur motivé. Il a mis ça tellement court pour être sûr qu'ils se repentent pas, mais c'est du coup, ils sont repentis pareil. Ils sont repentis à la prédication de Jonas et voici, il y a plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi, la reine de Séba, hein, qui avait été voir Salomon, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le dernier jugement. Jésus ici donne deux exemples de bonnes réponses à la prédication de la parole de Dieu. Des exemples qui ont porté du fruit. Des gens qui ont répondu par la foi à ce que Dieu leur montrait. À Ninive, c'est un réveil national ou conversion nationale. La reine de Saba, personnelle. Elle n'en revenait pas, elle avait la bouche bée puis tout ça, puis était émerveillée de la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Dans les deux cas, Jésus amène ça comme un contraste avec la génération à laquelle il s'adresse. Je vous rappelle, il s'adresse au leadership comme représentant la génération. Il y avait d'autres mondes qui écoutaient autour. Donc, c'est vraiment solennel. Jésus les avertit. Et faut comprendre, là, il était face au prophète avec un grand P, celui dont Moïse a parlé. Il y a un prophète qui va venir, hein? Deutéronome 18. Au prédicateur parfait. Et c'était plus que Jonas, c'était plus que Salomon. Jonas, le prédicateur qui a amené toute une ville au complet à se repentir. Salomon, l'homme qui avait une sagesse supérieure à tous les autres, là, il était face au Fils de Dieu lui-même et ils ne se sont pas repentis. Puis, en général, il n'y a pas eu beaucoup de conversion personnelle pour la nation, puis il y a encore eu moins de conversion nationale. Jésus leur met la vérité directement devant la face. Donc, avec une telle réponse, à un tel amour, une telle grâce de la part de Dieu, il les met face au jugement qui les attend parce qu'ils sont incrédules face à tant de longanimité. Et maintenant, pensons à ça un peu. Notre réponse à la prédication de la parole de Dieu, c'est soit le réveil ou le sommeil. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Puis le sommeil, si jamais, le sommeil profond, on s'éloigne complètement, mais on peut être pas réveillé, mais on... OK? Et je pense qu'on est confronté à ça en ce moment, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va dormir comme le reste du monde? On va dire, non, on va se confier en l'Éternel, mais on va y faire confiance. Mes amis, moi, je vous l'ai dit, j'ai pas le choix, là. Puis un frère, un matin, le rappelait, c'est vrai, je vais rendre compte pour ça. Si moi, j'encourage l'Église à tomber dans le sommeil, OK, vous êtes chacun responsable pour vous, mais moi, je vais être responsable devant Dieu à avoir encouragé tout le monde. Parce qu'on parlait de ça sur... C'est quoi l'expression sur le leadership? Je finis par m'en rappeler. Comment qu'il appelait ça? La capitulation du leader. Je ne veux pas capituler. Surtout pas. Non seulement pour moi, ma famille, mais pour tout le reste. Mes amis, c'est pas le temps de s'endormir. C'est pas le temps de... lancer la serviette. C'est le temps de mettre notre confiance en l'Éternel qui va s'occuper de nous autres. Il s'est occupé de tous les chrétiens à travers l'histoire. Il s'est occupé des chrétiens en Corée du Nord, en Russie. Puis pensez-vous que nous autres, il nous a oubliés? Puis il va pas... Non, il va s'occuper de nous autres. Il faut juste y être fidèle. Il faut craindre Dieu plus que l'homme. Et quand Jésus, à deux reprises, il n'y a pas la même expression, il dit il y a plus que Jonas ici. Puis il dit il y a plus que Salomon. Évidemment, il pointe à lui-même et indique par cette expression que le jugement va être en fonction du degré de lumière qu'on a reçu puis comment on a répondu à ça. Donc, savez-vous que même nous ici, OK, les Ninives, c'était des païens. OK? Il n'y avait pas grand lumière de la part de Dieu. La reine de Séba, c'est une païenne aussi. Il n'y avait pas grand lumière. Mais Dieu leur a donné la lumière, ils ont répondu à ça. Eux, c'était le peuple élu d'Israël avec les Écritures au complet. Là, il y avait le Fils de l'homme devant. Leur jugement allait être combien plus grand? Parce que Dieu leur donnait beaucoup plus de lumière. Et il y avait le Fils de Dieu devant eux. Maintenant, pour nous, on a les Écritures. Mais on a même pas juste le Fils de Dieu devant nous. Si on est un enfant de Dieu, on a le Fils de Dieu en nous. Son esprit habite en nous. Donc, on est inexcusable si on ne lui fait pas confiance. Et son esprit en nous comme ça exige, nous pousse à ça, à répondre par la foi à ce qu'il nous envoie. Et vous, que Dieu nous envoie, il y a quelque chose de commun avec tout le reste de l'histoire. Il veut qu'on réponde en lui faisant confiance. Que ce soit Ézéchias dans 2 Chroniques 20, où est-ce qu'il y avait Sanchérib qui arrive avec tambour et trompette pour faire peur à tout le monde. Il a resté calme. Il s'est confié en l'Éternel, il a prié le Seigneur, puis Dieu a délivré. C'était pas évident, là. On parle d'une armée beaucoup plus supérieure devant une ville vulnérable, mais Dieu a opéré la délivrance. Pourquoi? Dieu voulait juste qu'Ézéchias puis le peuple y fasse confiance. Puis c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est encore la même chose pour nous autres, en ce moment, en 2020, bientôt 2021. Et mes amis, s'il y a quelque chose que je trouve plus dur que les choses qu'on peut vivre, les inconforts des mesures et tout ça, c'est voir l'état lamentable du peuple de Dieu en général. Une chance qu'il y en a qui se démarquent. Puis je suis content, même ici au Québec et au Canada, je parle à des gens, puis je vois, bon, ils continuent de se confier dans le Seigneur. Mes amis, si le peuple de Dieu ne sont pas ceux qui se confient dans le Seigneur, l'heure est grave. Et savez-vous quoi? On est en train de signer notre propre jugement. Comme je disais, on est au moment où est-ce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et je pense là-dessus que Dieu se sert de ça pour révéler. Notre frère parlait, ah, si l'homme est le centre, tu sais, ben c'est quoi? Dieu met en évidence que si l'homme est le centre de notre vie, ben ça va pas loin. Dieu révèle ça. Dieu révèle qu'il est le seul digne de confiance, puis que vraiment, c'est lui qui délivre. Et savez-vous, ça me fait penser dans Osée, chapitre 4, verset 6, quand ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça, c'est un verset souvent qui est vraiment twisté puis utilisé à toutes sortes de choses. Genre, ah, c'est parce qu'il faut mieux connaître la Bible, tout ça. Puis certainement que connaître la Bible, ça va nous aider grandement. Mais dans le contexte d'Osée, quand il a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », c'est qu'il ne connaissait pas Dieu lui-même. Il faisait toutes les bonnes affaires, mais il était étranger à Dieu. N'est-ce pas ce qu'on est en train de vivre? N'est-ce pas ce qui nous détruit? Si on connaît Dieu, là, il arrive quelque chose, c'est vers lui qu'on se tourne parce qu'on sait que c'est le seul qui secourt, c'est le seul qui est bon puis qui vraiment fait la différence. Puis si, comme ça, on connaît pas ce Dieu qui délivre, qui est bon, qui est prêt de ceux qui l'invoquent, on va être détruit. Comme dans le temps d'Osée. Ça nous amène au troisième ultimatum ce soir. Leur dernier état spirituel, versets 43 à 45. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison... Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » L'image que Jésus ici dresse communique une grande vérité par rapport à l'état spirituel d'une personne, et ici, aussi d'une nation, parce qu'elle dit cette génération. Donc, c'était plus que juste des individus. Ici, Jésus s'adresse aux Juifs en tant que nation, cette génération qui était devant lui. Et l'idée ici, là, avec une maison balayée, vide, balayée, ornée, là, comme on voit au verset 44, c'est la description d'une personne, d'une nation, qui se voue à des réformes religieuses externes. Rappelez-vous, je vous disais que l'idolâtrie, la façon qu'il était adultère, c'est qu'il faisait tout extérieur selon Dieu, mais c'était vide, c'était mort, il n'y avait pas la vie de Dieu, OK? Donc Jésus nous donne ici une image de ça. C'est comme une belle maison, toute balayée, ornée, puis tout ça. Donc quelqu'un ou une nation qui se voue à des religions externes, mais sans la transformation spirituelle, surnaturelle du Saint-Esprit, qui commence à la nouvelle naissance, puis qui continue ensuite avec la sanctification tout le reste de la vie de cette personne-là. Et c'est ça l'image que Jésus communique. Et au verset 45, quand il parle de cet esprit-là qui s'en va, puis qui en prend d'autres encore plus méchants, puis la condition de cet homme est pire, la dernière condition de cet homme est pire que la première, ben c'est le résultat final d'une telle réforme extérieure sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. C'est plus qu'un échec. Tu sais, un échec, bon, ça n'a pas réussi, mais ici, c'est une augmentation de la déchéance. C'est vraiment l'état spirituel le pire. C'est une dégradation majeure d'une personne et d'une nation. Ça aussi, mes amis, on a des choses. Si pour Dieu, on ne se confie pas en Dieu, puis qu'on ne prend pas position, puis on dit « OK, on va faire confiance à Dieu », mes amis, notre état spirituel va être pire que le premier, parce qu'on peut dire « on fait toute une réforme, on fait tout ce qu'on... » Mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu veut qu'on se confie. Dieu veut que lui fasse le travail. Dieu veut faire, lui, le travail surnaturel. Il veut nous donner une joie surnaturelle, une paix. Il veut faire quelque chose que juste lui peut faire. Pour ça, il faut qu'on se confie en lui. Dieu ne veut pas qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye de notre mieux d'essayer de sortir de la situation dans laquelle il nous a mis. Il veut qu'on se confie en lui. Sinon, notre condition va être pire. Notre dernière condition va être pire que la première. Et mes amis, dans ce qu'on vient de lire ici, la réalité de ce que Jésus a décrit ici, a prophétisé en tant que prophète. Mes amis, c'est arrivé de façon tragique pour Israël. La condition était vraiment, vraiment pire. Ils ont rejeté leur Messie. Ils ont été complètement endurcis spirituellement, puis en plus, physiquement, ils ont été dispersés aux quatre coins de la terre. C'est pas une expression biblique parce qu'il n'y a pas de coin vraiment sur la terre, mais bon, aux quatre vents. Puis à un niveau plus personnel, la réforme de la sanctification par les œuvres, si on essaye de grandir dans le Seigneur en pégayant notre propre canot, ami, ça ne peut pas tenir en ce moment, puis Dieu est en train de le révéler. En ce moment, là, ce qui tient, là, c'est qu'il faut qu'on s'accroche à Dieu. Puis c'est ça qu'on dit, on lit la parole, mais ça nous suit. C'est ça qu'on a besoin de voir dans la parole de Dieu, les trésors, l'encouragement, de voir dans la prière, dans la communion. N'est-ce pas qu'on a besoin, comme on n'a jamais eu besoin avant, on a toujours eu besoin, mais là, vraiment, on s'en rend compte. Et ça, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui révèle à quel point on a besoin de lui. Vraiment. C'était facile avant de juste s'appuyer ses apparences, mais là, ça ne tient plus. Ce dont on a le plus besoin, c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec ce que j'appelle là, cette crise révélatrice. C'est de laisser Christ vivre en nous. Pour moi, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis d'être comme ça, transformé dans le renouvellement de notre intelligence, de ne plus penser de la même manière pour voir la vie comme on la voyait, mais de la voir à travers ce que Dieu nous montre de lui. Puis sinon, notre ultime jugement, ça va être d'être dans un état pire que ce qu'on était. Mes amis, ce n'est pas ça qu'on veut. On conclut avec les versets 45 à 50. J'ai dit qu'on allait lire, on les lit maintenant. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là et mon frère, et ma sœur, et ma mère. Petite référence parallèle ici, Marc rajoute ici sur les parents la parenté de Jésus qui viennent s'enquérir de lui. Ça dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Parce qu'on venait à lui, là, en disant, wow, là, Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est en train de perdre la boule. OK? Et quand on met les deux références ensemble, ça nous aide à comprendre c'est quoi l'attitude de sa famille par rapport à qui Jésus est et ce qu'il faisait, sa personne et son œuvre. Il se rendait vers lui de même pour lui dire d'arrêter de faire ce qu'il faisait. « Hé, arrête ça! » Son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il était fou, sa personne. Il avait tout faux. Il dit « Ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens, puis t'es fou. » Il ne comprenait pas ce qu'il faisait, puis il ne comprenait pas qui il était. Voyez-vous? C'est ça qu'on comprend ici sur l'intervention. Juste quelque chose avant de développer plus là-dessus, mais ça nous montre quelque chose sur Jésus là, dans sa vie. Là. Non seulement, on l'a vu dans le chapitre 12, il y avait les ennemis, comme on a vu les scribes, les pharisiens qui l'associaient à Belzébul. Là. Mais là, sa propre famille vont le voir et dire « T'es fou! » Ça nous montre pourquoi et comment Jésus était, comme Ésaïe le prophétisait, un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Il était seul, Jésus. Il n'y avait personne comme lui. Il n'était pas compris. Même avec ses plus proches. Je pense que ça nous montre une vérité qui est bien d'actualité. N'est-ce pas vrai qu'il y a une proximité, il y a quelque chose d'être dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, avec la famille de Dieu qu'on ne retrouve pas nulle part dans le monde, puis que c'est donc précieux. N'est-ce pas vrai que plus que jamais on est dans le monde, qu'on se sent tellement étranger et voyageur sur cette terre. Encore là, ça a toujours été le cas. Mais mon ami, on s'en rend compte encore plus. Puis on a le temps des fêtes. Puis il y en a ici qui ont de la famille sauvée. Il y en a qui ont de la famille non sauvée. Il y en a qui ont un mélange des deux. Mais n'est-ce pas vrai que ceux qu'on est le plus près, qu'on a le plus d'affinité, c'est les enfants de Dieu, c'est la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que les relations les plus proches et les plus fortes sont toujours par l'affinité spirituelle, la relation spirituelle. Il y a une autre couche que je veux regarder à ce qu'on vient de voir là, par exemple, à cette vérité-là. Ce même principe est vrai par rapport à des chrétiens forts dans la foi, spirituels, versus des chrétiens faibles dans la foi. Et c'est avec ça que je veux qu'on conclue ce soir par rapport à la réponse de Jésus à une génération méchante et perverse. À la fin de ce qu'on a lu, ça dit, Jésus a dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il y a quelque chose qui est foncièrement déchirant dans tout ce qu'on vit. Le peuple de Dieu lui-même est déchiré. N'est-ce pas vrai? On ne veut pas tomber dans la condamnation, on ne veut pas mépriser nos frères et sœurs. Certainement, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut se confier en Dieu, lui faire confiance, même malgré ce que l'homme peut dire, ce que l'homme peut faire? Puis il y a des frères et sœurs qui ne sont pas d'accord avec nous. On est confronté à ça, n'est-ce pas? Tellement dans le temps des fêtes, on voit de la famille, des gens, d'autres frères et sœurs de d'autres endroits. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Jésus dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. C'est ça qu'on fait. On fait la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Voici l'œuvre. Et en général, c'est quoi les œuvres qu'on doit faire pour hériter le ciel? Voici l'œuvre, c'est que vous croyez. Il faut juste qu'on persévère dans la foi. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. La Bible nous dit clairement dans Hébreux 6, n'est-ce pas? Que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il s'approche de Dieu par la foi, croyant qu'il rémunère, qu'il récompense ceux qu'il cherche. L'ultime besoin qu'on a, chacun. Et nous branchons tous de différentes manières. Mais l'ultime besoin qu'on a, c'est d'être dans la volonté de Dieu et de marcher dans cette volonté, telle que Dieu nous le confirme dans sa parole et qu'il le confirme et le renforce par la direction intuitive du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur des choses, qui nous rappelle des choses, qui nous dirige. Hein? On sait, le Seigneur fait ça dans la prière, dans notre marche avec lui. Alors voici mon appel ce soir. Ce temps qu'on prend maintenant à répondre à Dieu dans la prière, j'aimerais qu'on le prenne pour aller à Dieu avec nos fardeaux, nos besoins, les choses qui nous montrent, et lui demander simplement ceci, parce que la volonté de Dieu, dans le fond, Dieu, dirige-moi dans ta volonté, puis donne-moi la force de l'accomplir. Pensez à ça, la volonté de Dieu, il faut la connaître. Puis une fois qu'on la connaît, ça prend la capacité pour la faire. Si on a ça, ça va bien aller. Je pensais pas dire ça, c'était pas dans mes notes, mais à ce temps, je m'échappe quand je dis ça. On a le droit de le dire, là. J'ai pas mis un petit arc-en-ciel à côté. Ça va bien se passer. Dans le sens que c'est de ça qu'on doit s'inquiéter. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Puis une fois que tu me le montres, donne-moi la capacité de le faire. Seigneur, je veux me confier en toi. Puis quand vient le temps, je veux juste persévérer à le faire de moi ce que ça me prend pour l'accomplir. Si ça, c'est notre désir, si ça, c'est ce qui nous inquiète, si c'est la préoccupation de notre cœur, les autres choses, ça va tomber en place. C'est pas plus compliqué que ça. Savez-vous quoi? On peut s'inquiéter. Ah, un qui pense ci, qui pense ça. On peut devenir centré sur l'homme de tellement de façons. Soyons centrés sur Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Puis une fois que tu me le montres, juste la faire. Seigneur, merci pour le fait que tu t'es adressé à nous ce soir encore une fois. Dans ta parole vivante, éternelle et d'actualité pour en ce moment. Merci que toutes les Écritures sont inspirées et utiles. Seigneur, tellement utiles pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Et encore, merci que ton Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et Seigneur, tu vois, des fois, on a des temps où est-ce qu'on peut être un peu, soit au dépourvu, on ne sait pas trop comment réagir à des situations, à des personnes. Alors, on te demande que tu nous fasses connaître ta volonté, simplement. Et Seigneur, tu nous donnes la grâce de la faire, malgré les peurs qu'on peut avoir, que simplement, on te fasse confiance et savoir que c'est toi qui donnes la grâce, qui donnes le vouloir et le faire. Merci Seigneur que tu nous écoutes, que tu es vivant et qu'on peut toujours se confier en toi. Merci que tu l'as voulu ainsi, à dessein, afin que tu sois glorifié dans la vie de chacun ici, dans la vie d'une petite église comme la nôtre et de ton corps sur terre dans ces derniers temps, Seigneur. Qu'on garde les yeux sur le chef et le rémunérateur de notre foi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.